Bonjour, c'est l'heure d'Underscore, toujours sur Radio Méga. Une fois n'est pas coutume, j'irai bien encore jouer avec vous, vous laissant ouvrir la porte de l'univers de la science-fiction. Alors à vos lampes de poche, Matt nous éclairera sur le sujet.
Oh là là, Lisa, mais vraiment, t'es dépressive, hein? Moi, je secours. Je vais essayer de voir si on peut lui donner un peu plus de Prozac, parce que franchement,
elle est plus en forme que la semaine dernière, quand même. Ça m'améliore un peu. Ouais.
Franchement, elle me fait un peu peine. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet du jour sera plus ludique. Effectivement, parce que Matt va nous conter un nouveau jeu vidéo, peut-être.
Nouveau, non, mais ouais, un jeu vidéo, en tout cas.
Alors, nous allons vous laisser la primeur, effectivement, de découvrir ce qu'il va nous offrir comme...
Spoilers. On va pas divulgâcher, comme on a dit.
Non, on va pas divulgâcher, comme on disait il y a déjà 2 semaines. Maintenant, passons à l'actualité.
À l'actu. Alors, Montréal, mise sur le logiciel libre.
Ah, bien ça. C'est une belle ville.
La ville qui accuse un fort retard informatique table sur le libre et des partenariats avec d'autres villes. Donc, voilà. Ouais, peut-être du coup avec Barcelone, puisque Barcelone s'y met aussi. Donc, qui sait, hein.
Ouais, mais je pense que c'est aussi une histoire de fric, tout ça. Non ?
Je sais pas.
Parce que s'ils s'y mettent très tard. Mais bon, Adopi, une Adopi au pire au Canada ?
La coalition Frangeu Canada propose au CRTC, alors ça doit être une instance de régulation là-bas, d'instaurer une liste des sites web de piratage qui... Ah, j'aime pas, faut mettre des guillemets à piratage, c'est pas vrai, on fait du partage non marchand.
C'est
qui serait automatiquement bloqué par tous les distributeurs d'accès Internet. Oh. Encore une super idée, ça, franchement. enfin bon.
Oui, c'est comme la neutralité du web, hein, quand on parlait la semaine dernière.
La NASA qui retrouve un satellite lancé en 2005.
Oui, qui est en fait...
Il était où ?
Bah, en fait, c'est un astronome amateur qui l'a retrouvé. Et alors, il était lancé pour une mission de 2 ans, donc en fait, il a terminé sa mission. Mais du coup, ils avaient un peu perdu sa trace. Alors par contre, ils vont devoir faire de l'ingénierie inverse pour en reprendre le contrôle, parce qu'en fait, son logiciel, le logiciel qui est embarqué dedans, il est obsolète, parce qu'il a été commencé le projet en 98. Et puis l'équipe qui gérait ce satellite, en fait, est passée à autre chose. Donc l'unité qui gérait le truc a été dissoute.
Donc, chouette, on va pouvoir repasser à Windows XP.
Ouais. Et attention. Attention, l'effet fail du mois!
Accrochez-vous à quelque chose. Donc 2018 commence très bien. Les données de santé de la moitié de la population norvégienne ont été volées.
Oups.
Un nouveau malware Android nommé Sky Gofri. Enfin, il semble être là depuis 2014 quand même. Plus $1 million volés dans les distributeurs de billets aux US, dont la majorité fonctionne encore, tiens donc, sous Windows XP. Alors, ceux sous Windows 7 semblent aussi visés maintenant.
Génial, c'est un peu comme le satellite.
C'est ça.
Oui, Windows XP, tu vas au distributeur, tu repars avec 1 million, c'est cool.
C'est cool, j'aime bien Windows XP.
Ouais, mais peut-être 1 million de bitcoins, hein.
Ouais. La carte de tous les déplacements des utilisateurs de bracelets connectés indique les bases secrètes américaines.
Ah ouais, j'ai vu ça, c'est excellent.
Oui, okay. Donc c'est un service, en fait, qui en fait, a publié ce qu'ils appellent une hot map. En fait, c'est l'ensemble de toutes les traces de tous les gens qui ont utilisé des Fitbit et d'autres bracelets connectés. Et du coup, on se rend compte que, tiens, il y a des traces dans le désert, là. Oh, ça ressemble à une base américaine. Oh. C'est gênant, hein. Donc, par défaut, des réglages pas très privés sur les bracelets connectés, et hop. Alors, des pubs sur YouTube qui empruntent votre processeur pour miner des crypto-monnaies, tant qu'on y est. Facebook qui continue toujours plus dans l'intrusif. Bon, ça, on est habitué. Une séquence radio identique permet d'ouvrir à distance les trappes de recharge de toutes les voitures Tesla et Supercharger.
Génial!
Alors même si le risque est limité, c'est quand même pas top. Et enfin, Carrefour arrête Nolim, sa plateforme d'e-books, donc de livres électroniques, enfin pas tout à fait, parce que du coup ils sont sous DRM. Et donc ses clients risquent de perdre tout leur... leur livret sous DRM.
Mais non, pas DRM, c'est GDN.
Ah, GDN, pardon.
Bah oui, gestion de droits numériques.
Je sais pas si je m'y ferai. Hein.
Ah là là, mais essaye.
On va tenter.
Eh ben oui, mais en attendant, nous allons faire une petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après avec Matt qui nous parlera de jeux vidéo.
Thank you.
c'était Cubcrate et AU5, c'était Impulse. Donc voilà, c'était une jolie musique pour faire une petite pause. Mais tout de suite, nous passons au sujet du jour avec Matt. Vas-y, raconte-nous ce que tu nous vas nous présenter aujourd'hui.
Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, je me suis aperçu que depuis que j'ai commencé mes petites chroniques là, sur Radio Mega, j'avais encore jamais parlé de la Nintendo 64. Alors, c'est quand même ma console de prédilection.
Bah oui, en plus, tu avais écrit un livre.
Bah oui, que j'en avais fait un livre il y a 4 ans. Alors, je ne fais pas mon auto-promo. D'ailleurs, ce serait con, puisque de toute façon, mon bouquin, il est en rupture de stock depuis plus d'un an. Et qu'à moins de claquer 130€ sur Amazon, il y a autant de chances de trouver un exemplaire neuf de Nintendo 64 Anthology, de voir Joe Wilfried Stronga en finale de la Coupe Davis cette année.
Qui mange un Kinder Bueno.
Et l'année suivante. Et celle d'après. Donc, avant de vous parler d'un de mes jeux préférés de la N64, petite question juste pour situer un peu le truc, c'est quoi un jeu d'action?
Bah ouais, c'est quoi un jeu d'action?
Bah je sais pas.
Bah c'est une vraie question.
Oh.
Oui. Ah. Non, le truc du jeu d'action, en fait, c'est surtout de définir l'action elle-même, et du coup, il y a plein de genres de jeux qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Le beat'em up, la baston, le FPS, le shoot'em up, c'est pas des jeux où on reste... spectateur qu'intervenant. Mmh. On va citer quelques exemples. Doom, c'est un jeu d'action.
C'est vrai.
Tetris, c'est pas un jeu d'action.
Ah non.
Twisted Metal, c'est un jeu d'action. Ah. Command & Conquer, c'est pas un jeu d'action.
Ah bon.
Candy Crush, c'est un jeu de merde.
Ouais, non, mais là, tu
c'est
peux y aller.
C'est même pas un
là.
Jeu, c'est une machine à cash.
Voilà. Ouais, et donc, ouais, il arrive que parfois, plusieurs de ces sous-genres du jeu d'action qu'on vient d'évoquer apparaissent dans un seul et même jeu. Et du coup, comme on ne sait plus trop comment les définir, dans quelle case le ranger, par défaut, on va appeler ça un jeu d'action. Et c'est le cas de Jet Force Gemini.
Waouh, ça te met dans l'ambiance.
Voilà, donc Jet Force Gemini, c'est un jeu qui est sorti en 99, c'était développé par Rareware quand le studio était vraiment au sommet de son art, et le jeu est réalisé en partie par Martin Wheatley qui avait auparavant travaillé sur Blast Corps, qui était un des premiers jeux de la console. Alors, Jet Force Gemini, c'est un pur jeu d'action, pas seulement parce qu'on passe la moitié de son temps à tirer sur tout ce qui bouge, y compris sur ce qui bouge pas vu les quelques problèmes de jouabilité du truc, mais j'y reviendrai un peu plus tard, mais aussi parce que le jeu mêle plusieurs genres. C'est-à-dire qu'il y a du jeu de tir, essentiellement, mais aussi il y a de l'exploration, de la plateforme, et même de la course. Alors je vais juste faire un point rapide sur le scénario. Le vilain pas beau Mizar veut prendre le contrôle de la planète Goldwood et réduire à l'esclavage le peuple pacifique et poilu des nounous.
Oh, voilà, les pauvres.
C'est en gros ce que décrit la notice du jeu, le jeu en lui-même pendant ses très rares dialogues, et la magnifique bande-annonce française du catalogue officiel Nintendo 99 sur VHS, dont je ne peux m'empêcher de vous passer quelques extraits.
Une nouvelle race de héros débarque sur Nintendo 64. Jet Force Gemini.
C'est du lourd, attention.
Lupus, support moral et véritable tank à poil court. Suréquipé, surentraîné, c'est le Godzilla canin par excellence. De l'action, avec des grosses scènes de gunfight contre faux ennemis qui tirent dans tous les sens.
Gunfight. On a parlé d'anglicisme il y a 2 semaines.
John Woo peut retourner se coucher, Ken.
Rencontrer des personnages louches dans des énigmes tordues et parodies. Écoutez-les avant de shooter. Jet Force Gemini. Laissez-les sauver la galaxie ou ils la feront péter.
Ah !
C'était n'importe quoi. Ouais, c'était une bande-annonce catastrophique qui durait plus de 2 minutes, mais ça vendait pas super bien le jeu. C'est complètement
ridicule. Bah oui,
ridicule.
Et sinon ils vont faire péter l'univers.
Mais c'est complètement assumé, hein, jusque dans la traduction française, puisque certaines lignes de dialogue semblent même avoir été rédigées par un gamin de 10 ans, et encore. J'y ai rejoué cet après-midi, je vous assure qu'il y a des fois c'est pathétique. Mais, au niveau de l'ambiance, c'est très étrange, c'est un mélange de plein de références de la science-fiction. Il y a des petits clins d'œil à Star Wars, il y a un peu de Stargate avec la pyramide à la fin sur la planète de Mizar, un peu de Starship Troopers parce qu'on dégomme des insectes tout le temps. Mais tout ça, c'est habillé de couleurs vives avec un design un peu enfantin. Et d'ailleurs, dans la toute première version de Jet Force Gemini qui était présentée à l'E3 1998, les personnages du jeu étaient vraiment des gamins. Et leur apparence a été modifiée seulement quelques mois avant la sortie du jeu. Mais dans la version finale, donc les deux héros, Gino et Vela, ont des proportions plus adultes, ce qui renforce encore un peu plus le paradoxe entre l'univers enfantin d'un côté et la violence trop relative mais bien présente du jeu. Alors le truc qui illustre le mieux ce que je vais expliquer, c'est que c'est la séquence du début où il y a un vaisseau qui atterrit carrément sur un pauvre nounous.
Oh non !
Voilà, là, les petites peluches toutes mignonnes, ben voilà. Alors bon, le voir se faire exploser brutalement comme ça dans une gerbe de sang avec un vieux son de splosh, c'est rigolo pour un adulte, mais ça peut traumatiser un gamin quand même qui s'attendait pouvoir sauver tous ces pauvres personnages alors que finalement, avant même de commencer à jouer, bah, il assiste impuissant à la mort de l'un d'entre eux.
Ah, c'est violent.
Justement, l'action est violente, l'univers ne l'est pas, mais quand tu butes sur les fourmis, ça fait des gerbes de sang vert, mais ça gicle quand même de partout, tu peux les décapiter. Tu peux décapiter les nounous aussi et ramasser leurs têtes. T'as un compteur de têtes. Alors, toutes les 100 têtes de fourmis, tu débloques un petit bonus qui sert à rien, mais les têtes de nounous, c'est juste pour dire à quel point t'es un sadique en fait. Voilà.
Ouais, d'accord.
Donc, concernant le jeu, alors le joueur incarne d'abord Juno, puis plus tard Vela, une fois qu'on l'a libéré, puis Lupus, leur chien, et chacun se joue à tour de rôle. Et on peut changer de personnage à tout moment, et chacun a son petit cheminement jusqu'au monde final où il se retrouve pour affronter Mirza.
Pas Mirza, hein.
Non.
T'avais pas vu Mirza.
Non, c'est pas ça. Bref. Là où Jet Force Mini est original, c'est que le jeu commence réellement une fois qu'on a vaincu le boss de fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le jeu, ouais, enfin qu'on a censé l'avoir terminé, bah, l'aventure elle continue et là, le joueur peut incarner le personnage de son choix, mais dans les niveaux de son choix aussi, il n'y a plus un cheminement imposé. Ça veut dire qu'à partir de là, on peut emprunter des passages inaccessibles auparavant parce que le personnage imposé dans tel niveau ne possédait pas la capacité nécessaire pour progresser.
Ça veut dire que finalement, ils ont fait tout péter.
Ouais. Il faut pas écouter cette bande. J'aurais pas dû la faire écouter.
C'est divulgaché.
J'avais honte en regardant ça à nouveau. Bref. Parmi les capacités des personnages, bah, Juno il peut marcher sur les sols de lave. Vela il peut plonger dans l'eau et Lupus il peut voler sur de courtes distances. Donc dès le premier monde, par exemple, il y a un immense fossé qu'on peut pas franchir. On arrive à débloquer la porte à l'autre bout, mais on sait pas comment y accéder.
Un chien qui vole ?
Oui, c'est un chien robot avec des petits réacteurs sous les pattes.
Ok, ça va que cette année c'est l'année du chien.
Ouais. Si tu le dis. Donc la première partie du jeu elle est très courte. La seconde partie elle est très très longue parce que le jeu, si tu veux vraiment le finir, il faut sauver tous les nounous et retrouver aussi les morceaux d'un ancien vaisseau spatial afin d'atteindre cette fois la véritable fin du jeu. Donc alors Jet Force Gemini c'est de l'exploration avec des zones de jeu assez vastes et plein de secrets à trouver, mais c'est surtout de l'action avec des passages de fusillade fréquents et bien bien bourrins. Et alors le jeu, il vous laisse le choix de tirer directement, en temps réel comme ça, en se reposant sur un système de visée semi-automatique. Il suffit de se tourner à peu près vers l'ennemi et de tirer et on le touche à tous les coups. Mais on peut aussi, en maintenant le bouton R, le bouton de tranche R, passer en vue semi-subjective, c'est-à-dire que la caméra se place juste derrière le personnage qui devient transparent. Et ça fait apparaître un curseur, on peut viser en déplaçant le curseur. Et il était possible de se déplacer en même temps qu'on pouvait viser. Et bah, ça paraît tout bête aujourd'hui, mais il y avait quand même assez peu de jeux qui permettaient ça à l'époque. C'était quand même un précurseur dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui le TPS, le Third Person Shooter. Alors par contre, le jeu, il a quelques problèmes de jouabilité. C'est vrai que le stick analogique, il est un peu trop sensible. Les personnages ont tendance à glisser, leurs sauts sont très bizarres parce qu'ils sont très hauts. Mais très rapide en plus, c'est assez difficile à gérer pendant les phases de plateforme.
Oui.
Et alors et surtout le choix des armes, il se fait de façon vraiment archaïque, c'est-à-dire qu'il faut faire défiler dans un sens ou dans l'autre toutes les armes jusqu'à équiper l'arme qu'on veut. Le souci, c'est que le jeu il propose près de 30 armes différentes.
Ah oui, alors oui.
Alors quand t'as presque plus de vie et que t'as besoin du bazooka mais que t'es équipé de la bouffe pour poisson, bah t'es bien emmerdé. Oui, parce que la bouffe pour poisson, c'est la première arme entre guillemets hein, qu'on trouve dans le jeu, et ça sert à faire explorer exploser des mines,
voilà. D'accord.
Et à nourrir des poissons aussi.
Oui, accessoirement, évidemment. Accessoirement. Ça semble logique.
Donc le jeu en solo est déjà immense, mais comme souvent avec Rareware, il y a un mode multijoueur qui est présent, et même trois modes multijoueurs. C'est-à-dire qu'il y a l'affrontement classique qui reprend le gameplay du jeu où on voit son personnage normal, sauf que voilà, c'est un écran splitté, il faut s'affronter. Il y a un mode tir sur cible. C'est une sorte de rail shooter. Il y a une caméra. Il n'y a pas d'écran splitté. C'est un seul écran, une caméra qui avance dans un niveau. Il y a quatre viseurs à l'écran. Chaque joueur a son curseur. Et il faut essayer de viser les cibles et éviter les nounous. Alors, c'est sympa, mais avec quatre curseurs en même temps sur le même écran, même s'ils sont de couleurs différentes, c'est un peu le bordel, ouais, parfois. Et enfin, il y a aussi un mode course. Il y a deux circuits en vue de dessus, à l'ancienne. C'est des circuits qui sont accessibles dans le jeu en solo, sur des bornes d'arcade, qui sont planquées dans une boîte de nuit. Il y a un moment où il y a une boîte de nuit, il faut s'y infiltrer, c'est assez rigolo. Et il y a aussi une course en vue de dos, en façon Wipeout, un petit peu, un jeu de course futuriste, avec des bombes et des taches d'huile pour gêner ses adversaires. Enfin, c'est assez fun. Enfin, c'est assez fun, mais pas autant qu'un GoldenEye A4, quand même, parce que c'est... Enfin, surtout le mode bataille qui est un peu plus décevant, par contre. Il est un peu plus compliqué à prendre en main. Déjà en solo, mais alors A4, en écran splitté, avec les ralentissements dont souffre le jeu en plus, c'est pas génial.
Et dis-moi, combien de temps il faut pour faire ce jeu ?
Oh, la première partie... c'est très délicat, c'est pas évident à dire, parce que moi, je le connais par cœur, c'est un jeu que j'ai refait mais des dizaines de fois. Je pense que pour finir le jeu, arriver au premier boss, il faut compter peut-être 7, 8 heures. Ouais, 7 heures, 6, 7 heures, on va dire.
Ah, on n'aura pas le temps de finir à la prochaine Amiga, ou alors...
Et par contre, pour explorer tout le jeu après, c'est 30 heures minimum.
Ah, quand même.
Ouais, c'est... Et ben oui, parce qu'en fait, on va visiter toutes les planètes avec tous les personnages pour être sûr de rien manquer. Bon, il y a quand même un compteur qui indique les nounous qu'on a sauvés, combien il en reste sur cette planète, est-ce qu'on les a tous sauvés ou pas. Mais pour ce qui est des pièces de vaisseau, on ne sait pas du tout où les trouver, et il faut vraiment tout explorer de fond en comble. Et là, ça prend énormément de temps. Bon, pour en revenir au multijoueur, donc le multijoueur A4, il est sympa, mais pas extraordinaire non plus. Mais par contre, on peut aussi compter sur un mode coopération, qui est tout simple, mais qui est idéal quand on veut jouer avec un débutant, ou alors avec une grosse buse, au choix. Et ouais, en fait, c'est tout simple, parce que le second joueur, pendant que le premier joue normalement avec son personnage, Vela, Juno ou Lupus, peu importe, et ben le second joueur, il dirige le petit robot à ses côtés, et il bouge juste un curseur. Alors l'avantage, c'est que il a des munitions infinies, il peut pas se faire toucher par les ennemis, donc il peut pas perdre. Il perd seulement si le premier joueur perd, du coup. Alors, l'option, elle n'est pas disponible tout de suite, mais très tôt au début de l'aventure, sur le troisième monde que traverse Juno, il faut juste reconstituer un petit robot qui s'appelle Floyd, et qu'on peut diriger parfois à certains endroits en solo, dans des petits parcours assez difficiles, parce que là aussi, la jouabilité pose problème parfois. Et ouais, donc, une fois qu'on a récupéré Floyd, il suffit de brancher une deuxième manette, N64, d'appuyer sur Start, et le curseur apparaît, et c'est parti pour tirer dans tous les sens, quitte à buter un pauvre nounours qui se trouvait malencontreusement sur l'écran.
Non, pas un nounours encore.
Et oui, ouais, le problème, c'est que si tu butes un nounours, bah, il faut recommencer tout le niveau si tu veux tous les retrouver.
Bien
parce
fait.
Une fois que tu les as récupérés,
c'est bien fait.
Que tu as fini le niveau, ils réapparaissent tous.
Ah, d'accord.
Donc t'es obligé t'es pas obligé de tous les récupérer à chaque fois, mais quand tu veux tous les avoir, si t'en loupes un ou si tu en as tué un malencontreusement, bah faut recommencer le niveau en récupérant tous les nounous.
Voilà.
Et toc.
Bon, alors la musique de Jet Force Gemini, elle est signée Robin Binland. Il y a quelques compositions de Graham Norgett. Dans Robin Binland, c'est celui qui fera quelques années plus tard les musiques de Conker's Bad Fur Day et sorti des musiques un peu de musique épique, des musiques d'ambiance, genre la jungle, le marais avec les zombies. Il y a vraiment de tout, c'est assez varié. Mais sinon, on retrouve plutôt des thèmes militaires.
J'imagine avec les nounours.
C'est juste l'écran de sélection des personnages, ça.
Ok.
D'accord, ouais. Voilà. C'est un jeu pour Kim Jong, non ?
Non, il saurait pas y jouer.
Ah bon.
Bon, voilà. Sinon, un dernier mot pour dire que le jeu, à sa sortie, était vraiment, vraiment super beau. Les textures, elles étaient très impressionnantes et les décors très fouillés. Alors qu'il y avait pas mal d'autres jeux N64 qui étaient plutôt vides, au contraire. Les textures, il y a vraiment des textures sur la fin du jeu, des textures en trompe-l'œil. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression qu'il y a du relief et quand on s'approche, on voit que c'est tout plat. Mais c'était vraiment super bien fait.
Wow.
Le jeu était techniquement très avancé. Il proposait même un mode 16/9e. Et c'était vraiment rare encore à l'époque, ça. Il n'a jamais été réédité depuis sa sortie, à part sur Xbox One dans la compilation Rare Replay il y a quelques années. Et une version Game Boy Color aurait dû sortir. Ça, c'est un truc vraiment pas très connu, parce que je me souviens même pas que ça avait été annoncé à l'époque. Mais la version Game Boy Color a dû sortir, mais elle a été annulée rapidement. Mais on arrive quand même à trouver quelques photos sur le net.
Waouh, bien, merci. Merci Matt pour ta présentation de ce fameux jeu vidéo. Et tout de suite, nous allons faire une petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après pour l'agenda. Alors, la musique que vous avez entendue était un extrait d'une musique de démo de FR88 Quantum Mysterium de Starbrush. Une musique d'une démo qui a été présentée à l'Evoque 2017, qui a terminé seconde. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit peu un retour sur nos amis les démoscéneurs. Tout de suite, passons à l'agenda.
Alors, dernier dimanche du libre, la rencontre mensuelle de Linux 07.
Ouais.
Donc, le 25 février 2018, à 13h30 jusqu'à 19h30, c'est au bar L'Estaminet à Lamastre.
Il y a aussi journée porte ouverte à la Forge Collective.
Oui, venez découvrir la Forge. Donc, tout un programme sur la journée. Il y a le petit déjeuner et puis présentation, tout un tas de choses.
C'est le 28 février, 8 rue Baudin à Valence.
À la Forge Collective. Atelier FreeCAD, modélisation 3D sur ordinateur. Donc ça, c'est au Valence Atelier Libre. C'est un atelier qui est récurrent. C'est pas la première fois qu'il passe.
Ouais.
Donc voilà, si vous avez un ordinateur, Windows, Linux ou Mac d'ailleurs, vous pouvez l'amener au Val avec votre souris et puis vous initiez à FreeCAD, à la modélisation 3D avec ce logiciel libre.
Le 28 février, de 18h à 21h, 13 bis rue Montplaisir à Valence.
Et enfin, Café Outils numéro 22, rendre vos événements interactifs. Wow. Donc, si vous êtes amené à animer des réunions, des séminaires ou des ateliers, vous ne souhaitez pas ou plus voir votre auditoire se désintéresser progressivement, prendre leur smartphone, suivez mon regard, pour proposer des événements plus ludiques où chacun participe, nous vous proposons, Le Moulin Digital qui vous propose ce café outil présentant des solutions favorisant l'interaction et l'attention de vos participants. Donc c'est au Moulin Digital, 8 avenue de la Gare à Alixan.
Le 8 mars.
De 9h à 10h30.
Bien, alors nous allons regarder dans la boule de cristal. Qu'as-tu vu dans ta boule?
VVV, otaku, ouvrez-vous un peu à l'autre, vous ressemblez à un Imitsu Bako.
Ah,
c'est les boîtes à secrets en fait, les trucs où il faut arriver à ouvrir.
C'est trop mignon. Et là, mon ordinateur, il arrête pas de faire n'importe quoi. Libriste, j'ai fait des blagues pourries. J'utilise pas Windows. On peut dire que je suis un comic sans MS.
Hacker, as-tu lu RI 2? Oui. As-tu lu RI demi?
Oui. RI demi.
URI demi.
Oh là là. Ouais, c'est là, aide-moi. Je plaide coupable. Nerd, ces emojis Unicode U plus 1 XXXX, c'est un mauvais plan.
Ah, codeur. Nous avons appliqué la méthode agile avec brio. Ah bon, Gilles n'était plus dispo ?
Graphiste, avez-vous pensé à déshabiller le nouvel habillage de France Télévisions ?
Ouah !
Oui, parce qu'ils ont changé de leur habillage et donc il y a un thread sur Twitter qui vous explique en fait tout l'historique des changements de tranche de France Télévisions.
Bien, eh bien, merci MMMN, merci Matt pour cette toute émission. Oui, parce que bon...
Tu manges des mots, ouais,
oui, parce que je pensais à la fin en fait, mais c'est vraiment la fin, parce que c'est la fin, et on se dit, parce qu'on a tous faim, à très bientôt sur Radio Mega. À bientôt.
À très bientôt.
Bye bye.